Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 décembre 2021. Ça s'approche gentiment, la fin de l'année s'approche gentiment. Et hier, enfin ces 2 derniers jours, mais surtout hier, je crois qu'on a vraiment bien compris le concept du rebond. Quand on regarde ce qui s'est passé hier aux États-Unis ou en Europe ou plus ou moins partout dans le monde, c'est impressionnant le retournement de tendance, le tournage de veste massif qu'on a vécu ces derniers jours. C'est vraiment spectaculaire. C'est pas tout le temps qu'on voit ça. Il faut dire qu'on a un tout petit peu surjoué et surexagéré ce qui s'est passé ces derniers temps. Et là, on est en train de digérer la chose dans la bonne direction. Et donc là, tout d'un coup, tout le monde reparle de Christmas Rally, de performance mensuelle moyenne du mois de décembre. Donc tout va bien à nouveau. On est passé dans un nouveau monde en l'espace de 48 heures et toujours pas grand-chose comme nouvelle finalement. Alors oui, ceci est un rebond. On peut clairement le classer dans cette catégorie. Hier soir, c'était l'explosion sur à peu près tout, mais surtout sur les techs. C'est assez intéressant de voir comment tout le secteur est remonté, mais tous les marchés sont montés, tous les indices sont remontés, mais surtout la technologie. Alors hier, je regardais un article sur les semi-conducteurs, par exemple. Hier, il faut savoir que le SOX, ce fabuleux indice qui sert aussi d'indicateur avancé, on dit toujours, je le répète souvent, mais faut le redire régulièrement, quand le SOX monte, eh bien, et quand le SOX fait des new highs, c'est un signe comme quoi le reste du marché va en faire certainement aussi tout prochainement. Donc c'est plutôt positif, et donc hier on faisait le bilan finalement de ce qui s'est passé sur le Semiconductor Index hier soir aux États-Unis. Donc la plupart des titres ont explosé, Nvidia en tête. Pour changer, quand vous regardez les 30 composants du SOX, la moins bonne performance de la journée hier, c'est 2,3% de hausse. Donc on voit que tous les composants du semi-conducteur index ont littéralement explosé hier. Tout le monde se congratule, tout le monde se tape dans le dos pour dire c'est génial, les semi-conducteurs repartent, la tech repart, le Nasdaq reprend 3% hier soir, 3%. Les charts veulent plus rien dire. Et quand vous regardez les raisons, bah, c'est parce que c'est les secteurs qui vont bien, et puis il faut juste reprendre la croissance quand le marché n'est plus handicapé par la croissance parce qu'il n'y a plus de variants Omicron. Alors j'exagère, hein, c'est pas qu'il n'y a plus de variants Omicron, mais on est en train d'accepter complètement le fait que ce variant, finalement, oui, il est super contagieux, mais il n'y a toujours pas de mort, donc ce qui veut dire que tout le monde peut le choper assez facilement et assez rapidement. Il y a assez d'histoires qui circulent sur le net, fake news ou pas, j'en sais rien, mais qui parlent du sujet de plein de contaminations sur des gens qui n'étaient pas censés être contaminés. Et donc, du coup, ça cartonne, il y a beaucoup de contaminations, mais il n'y a que des symptômes relativement légers, voire des gens qui sont asymptomatiques, et en tout cas pas de décès liés à ce variant Omicron, donc c'est plutôt encourageant. On a aussi eu Monsieur Fauci qui était très positif il y a 36 heures, qui a donné un peu la dynamique à tout ça. Et puis on a eu un des responsables de l'OMS qui a parlé également hier pour dire que normalement, si tout va bien, les vaccins qu'on a, ils devraient suffire contre le variant Omicron. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle toujours pour les pharma, parce que ils espéraient nous en fourguer un nouveau quand même derrière. Pour rajouter une couche sur tout ça, eh bien hier on a Glaxo qui a annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur un nouvel antiviral. Et cet antiviral, d'après les premiers tests qu'ils ont faits, eh bien fonctionne super bien sur le variant Omicron. Donc si tout va bien dans cette bonne direction, avec un bon cocktail d'AstraZeneca, de Glaxo, de Pfizer, de Moderna, le tout dans le shaker mais pas à la cuillère, eh bien normalement ça devrait bien se passer, et c'était clairement la thématique du marché hier. Là-dessus, vous rajoutez encore le fait que les Chinois ont baissé les taux et ont injecté une montagne de pognon dans le marché pour essayer de sauver le marché immobilier, même si tous les jours, on a une nouvelle boîte immobilière en Chine qui annonce qu'ils sont quand même un tout petit peu au bord du gouffre et qu'ils vont faire un grand pas en avant. Peu importe, on voit que la Chine fait des efforts, on voit que la Chine essaye de sauver son économie intérieure. Alors même si on sait que de toute façon on sera pas touché nous, puisqu'on l'a déjà dit répété des centaines de fois que le marché occidental est immunisé contre toute crise immobilière chinoise, eh bien là cette fois on est encore plus rassuré, parce que on va quand même prendre le côté positif de la chose. Ils font des efforts pour essayer de s'en sortir. Alors après, il y a les mauvaises nouvelles, hein. Alors les mauvaises nouvelles, l'avantage, c'est que quand on fait ce genre de rebond ultra spectaculaire, les mauvaises nouvelles, on a tendance à les mettre un tout petit peu de côté et puis dire ouais, c'est pas très très important. On y reviendra plus tard, on en reparlera plus tard. En gros, il y a des tensions en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Il y a les Américains qui disent « Attention, si vous faites quelque chose, il y aura des énormes sanctions qui vont vous tomber dessus ». Évidemment, on n'envisage pas non plus une guerre, parce que les Américains n'auront jamais le courage d'aller foutre sur la gueule aux Russes en Ukraine spécifiquement. Mais en tous les cas, il y a des tensions, et pour l'instant, on y met de côté. Et l'autre chose qu'on met de côté, c'est que si on reprend le scénario qui nous a totalement éclaté ces dernières heures, c'est-à-dire la disparition ou la non-incidence sur l'économie du variant Omicron, eh bien, ça veut dire que l'économie va continuer à cartonner. On l'a vu hier que la quasi-totalité des matières premières est en train d'exploser, entre autres le pétrole qui continue son rebond, pas très vite, mais qui rebondit quand même. Quand on met tout ça bout à bout, eh bien, ça va nous ramener à quoi? Ça va nous ramener à « Ah, mais c'est inflationniste tout ça !» Et puis si c'est inflationniste tout ça, eh bien alors ils vont devoir accélérer le tapering, et puis s'ils accélèrent le tapering, eh bien après ils vont monter les taux. Alors oui, on connaît toute l'histoire, on est tous au courant de cette histoire, ça tombe bien parce que la Fed se réunit la semaine prochaine, donc on aura un sujet à aborder, mais pour l'instant, on va pas nous gâcher notre plaisir. On était assez content que le variant Omicron soit de l'histoire ancienne et on se concentrait uniquement sur notre bonheur exacerbé de voir cette disparition publique dans le marché. Et puis, ben, on s'occupera de l'inflation à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine quand Powell viendra en parler à la télé. Alors autrement, si on fait un petit retour en arrière et puis une constatation de ce qui se passe en ce moment, si on regarde les graphiques, chose que je fais régulièrement tous les matins, je vous expliquais il y a 10 jours en arrière, quand le CAC 40, le jour du Black Friday, avait ouvert en baisse de 4,5%, je disais que des trucs pareils, on voyait que ça quasiment jamais, des gaps pareils c'était très rare et que souvent eh bien ces gaps pouvaient se faire combler. Eh bien, donc, on a eu l'exemple typique hier, puisque quand vous voyez le rebond sur le CAC, sur le DAX, les charts, ils veulent juste plus rien dire. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que les moyennes mobiles ont relativement bien fait leur office dans cette crise, cette prise de profit, cette correction avec des gros guillemets. Et donc, petit à petit, on est reparti très très vite, très très fort. Et on a vu aussi, selon les indicateurs, les calculs qui sont faits et le nombre d'achats qui ont été faits durant la période de crise, eh bien, il y a eu des quantités phénoménales d'acheteurs. Donc, pendant que ça baissait, pendant qu'on paniquait et qu'on se disait « Ouh, le variant Omicron, on va tous mourir !» Eh bien, finalement, les mecs qui sont arrivés pendant ce temps, ils ont racheté pour 6,7 milliards d'actions dans le « buy the dip », dans la correction de ces derniers jours. Alors, on mettait en question un peu cette thématique. Est-ce que le « buy the dip », faut encore le faire? Est-ce que c'est encore le moment de le faire? Eh bien, visiblement, ça marche toujours. C'est toujours difficile de savoir à quel moment c'est le dip et où est le fond de la tasse. Mais en tout cas, là, dans toute la baisse qui a été relativement rapide et toute cette espèce de phase d'hésitation, et les mecs ont injecté 6,7 milliards dans le marché des actions. Donc, on voit de toute façon que de l'autre côté, les taux ne génèrent aucun intérêt. Personne ne veut faire de l'obligataire. Il n'y a aucun intérêt à l'acheter du 10 ans quand on voit les rendements qu'on a aujourd'hui. Donc, à la première occasion, on essaye de racheter des trucs sur faiblesse et encore, souvent, de la tech. On le voit encore avec Nvidia qui a cartonné hier alors qu'elle est quand même juste au plus haut de tous les temps. Donc, tout ça pour dire qu'on est méga euphorique, que c'est un tout petit peu le Muppet Show quand même, parce que quand on regarde la terreur qu'on nous vendait il y a 5 jours en arrière et la confiance qu'on a ce matin, c'est absolument hallucinant. Quand on regarde tout simplement les prévisions, parce que maintenant, autant vous dire que maintenant qu'on a mis cette histoire Omicron derrière, on est tous en train de revenir dans la thématique du Christmas Rally. Alors, j'ai pas encore le bonnet rouge avec le pompon blanc, mais en tous les cas, on est de nouveau dans cette thématique du Christmas Rally. Si vous regardez la performance du Dow Jones depuis le début du mois, c'est 3,7%. Alors oui, on a eu la transition entre les deux mois, forcément. On a fait le trou fin novembre, et depuis début décembre, plus ou moins, on remonte. Donc, le Dow Jones est en hausse de 3,7% depuis le début du mois. Mais alors, si on plonge dans les histoires, dans les bouquins d'histoire de la finance, et si on regarde finalement qu'est-ce que nous disent les statistiques, eh bien, on apprend quoi? Eh bien oui, on apprend que chaque fois que le Dow Jones a fait plus de 3% de hausse sur les 6 premiers jours de trading du mois de décembre, eh bien normalement la fin de l'année se situe quelque part entre 4,7 et 5,2% de performance. Donc on n'attend pas non plus un délire absolument phénoménal sur le Dow Jones, en tout cas sur les indices, mais on a encore potentiellement et statistiquement Alors là, je devrais mettre un gros disclaimer pour dire que toute performance passée n'est pas égale à une performance future, mais en tous les cas, pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que on sait statistiquement qu'on a encore, en plus du délire dans lequel nous sommes, un potentiel de hausse jusqu'à la fin de l'année, donc tout va bien. Et puis alors, c'est pas fini, hein, parce que quand vous regardez les futurs ce matin, eh bien, les futurs sont en hausse, on continue dans le rebond, ça a pas l'air de vouloir s'arrêter, bon, ça sera peut-être pas forcément 3% ce soir, 5% sur le SOX, mais en tous les cas, on voit que on est vraiment passé dans un autre mood, hein. Il y a quelques jours, c'était le verre à moitié vide, et aujourd'hui, c'est le verre à moitié plein, voire complètement plein, voire qu'on doit même transvaser dans le deuxième verre, puisque tous les problèmes qu'on avait, ils ont été oubliés, puis comme je le disais tout à l'heure, l'inflation, on arrive à la mettre encore un tout petit peu de côté. Maintenant, il y a juste un truc que j'aimerais rajouter aussi, enfin, quelques petits détails pour conclure cette vidéo. Tout d'abord, regardez un petit peu l'histoire d'Ubisoft. Alors aujourd'hui, on commence à parler d'Ubisoft, parce que dans leur prochain jeu, ils vont mettre à disposition des NFT. Donc du coup, vous allez pouvoir, quand vous jouerez, obtenir des bonus supplémentaires qui vous permettront de changer le look de votre personnage. Alors pour l'instant, a priori, c'est pas prévu que vous deviez les payer. Vous allez pouvoir les gagner en jouant. Alors par exemple, pour changer de pantalon, tenez-vous bien, parce qu'il faut quand même la placer celle-là. Pour changer de pantalon dans le prochain jeu de Ubisoft, je crois que c'est Ghost Recon, eh bien, vous devrez avoir joué au moins 100 heures pour pouvoir changer de pantalon. Alors, je sais pas quel tarif horaire d'un mec qui joue sur une console, mais en tous les cas, ça fait quand même vachement cher le jeans à la fin. Enfin bref, donc on voit que ça commence à rentrer dans les mœurs, donc là, on reparle de métaverse, on reparle de gens qui vont aller claquer du pognon forcément à terme sur des choses qui n'existent pas, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans le métaverse ou dans les jeux vidéo qui seront certainement dans le métaverse à la fin. J'y connais rien, mais on continue dans cette thématique, c'est vraiment assez hallucinant. Et les volumes du dernier des 30 derniers jours dans les dépenses qui ont été faites dans le métaverse, c'est près de 300 millions de dollars. Alors c'est que dalle pour l'instant, mais ça reste quand même des chiffres assez monumentaux pour acheter ben rien en fait. Pour le reste, autrement, ben léger rebond sur le pétrole. On notera que la crypto ne fout pas grand chose pour l'instant. Le Bitcoin reste autour des 50 000 dollars et des poussières, et il y a l'air d'avoir un espèce de désintérêt momentané. Alors est-ce que ça va revenir? Puisque je vous rappelle qu'on a un rendez-vous à la fin de l'année. Pour le reste, l'or ne fait pas grand-chose. Les marchés asiatiques sont en hausse aujourd'hui pour toutes les raisons que je viens de citer. Bref, pour l'instant, on a un petit peu cette mentalité, c'est un marché de mecs, puisque finalement, on arrive à penser à une seule chose à la fois, la disparition de Omicron. Mais si on pouvait penser un petit peu plus loin et réfléchir un petit peu plus, on se rendrait compte qu'effectivement, on risque d'avoir deux, trois problèmes au niveau de l'inflation. Plus tard, la semaine prochaine. Mais une chose après l'autre, ne gâchons pas notre plaisir aujourd'hui. Question du jour sur l'uranium. Quelqu'un m'envoie une question en parlant de la société UEC. Il sera intéressé par monter une position sur cette société-là. Est-ce que ça vaut la peine? Le titre a beaucoup monté récemment, puis a beaucoup corrigé récemment. Et quand il regarde un peu la comptabilité, enfin le bilan de la société, c'est pas euphorique, ils sont encore en perte. Donc est-ce que ça vaut la peine, sachant qu'aujourd'hui, on a certains gouvernements, dont la France, qui ont réinvesti massivement dans l'uranium. Alors, l'uranium, c'est assez spécifique. Les sociétés qui traitent l'uranium, moi, je connais pas bien du tout UEC, donc je vais pas me lancer dans une analyse fondamentale de la boîte, d'abord parce que je suis pas allé à l'école, donc forcément, c'est plus compliqué. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir dans cette boîte-là, c'est que c'est une boîte qui fait de l'uranium. L'uranium est extrêmement réglementé, extrêmement difficile à traiter, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, de plus en plus de gouvernements sont en train de partir en direction de ces centrales nucléaires, de ces mini-réacteurs nucléaires qui sont en théorie moins dangereux et très populaires. C'est là où va la France, c'est là où va la Chine. Donc forcément, il y aura une demande supérieure en uranium. Donc toutes les boîtes qui sont actives dans l'uranium, et apparemment UEC fait partie d'un des leaders, devraient en bénéficier à terme. La problématique, c'est que c'est toujours difficile de comprendre où sont les marges, comment fonctionne le business. Il faut pratiquement être un espion pour maîtriser le sujet. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et d'ailleurs, quand vous regardez le comportement, uniquement le comportement technique du EC avec le tracker sur l'uranium que l'on connaît tous, eh bien, vous voyez que le mouvement baissier est quasiment le même en termes d'amplitude, peut-être un petit peu plus sur EC. Et du coup, ben, on est revenu en bas du range. Les gens se sont jetés sur l'uranium il y a 3 semaines en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait la thématique de la crise énergétique en Chine et qu'il fallait trouver par tous les moyens des solutions pour apporter de l'énergie aux Chinois. On n'en parle plus du tout, rien n'a changé. Donc probablement que la thématique va revenir, parce que la Chine a toujours un problème d'énergie, donc certainement que la thématique de l'uranium va revenir, et donc USC va reprendre de l'intérêt. C'est des boîtes qui fonctionnent aussi pas mal avec la spéculation derrière, donc aujourd'hui, si tout d'un coup ça revenait un petit peu front row, enfin... Dans les premières pages des journaux, eh bien potentiellement le titre a le potentiel de reprendre 50 ou 60%, un peu à l'image du tracker sur le Global X Uranium, qui a l'air d'être aussi relativement bien positionné d'un point de vue purement technique. Fondamentalement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Quand je regarde un petit peu les recommandations, il y a très peu d'analystes qui font de l'analyse fondamentale. D'ailleurs, j'en ai trouvé un seul. Le mec a un target à 7, sachant que ça vaut 3,60, ça fait 100% de hausse. C'est plutôt intéressant, mais ça reste l'avis d'un analyste et on sait ce que ça vaut. Donc voilà, beaucoup parlé pour pas dire grand-chose. C'est surtout un aspect psychologique qui fonctionne sur ce type de société et sur ce type de secteur. Et quand tout le monde est en train de partir chaud bouillant sur l'uranium, peu importe si les résultats de la boîte sont pourris, les gens voudront quand même en avoir. Je vous rappelle qu'il y a quand même une pété de société aujourd'hui qui traite à des valorisations complètement débiles alors qu'ils ne gagnent pas d'argent. Et on est en train de parier sur combien ils vont en gagner dans 10 ans. Donc ce serait pas très grave si une boîte qui fait de l'uranium prenait 50% alors qu'ils sont en perte fondamentalement parlant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter en ce mercredi matin. Nous sommes pratiquement au printemps, les oiseaux chantent, le soleil brille, les marchés montent, les records vont probablement tomber, le S&P 500 est à ça de battre des records. Le Nasdaq qui monte à coup de 3%, normalement ce soir ça devrait être réglé. On est tranquille par rapport au Omicron, on préfère ne pas parler de l'inflation. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse. On approche des 12 000 followers, c'est de la folie. Et puis, vous pouvez aussi liker cette vidéo. Merci aussi pour tous les commentaires positifs que vous faites. Les négatifs, ben ok, chacun ses droits. L'avantage, c'est que si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Moi, je vous souhaite néanmoins une très très belle journée et je vous retrouve demain. Bye bye !